Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La circulation du virus ralentit en France, c'est l'Institut Pasteur qui le dit.
C'était une intuition, c'est désormais une certitude grâce à une étude précise des hospitalisations et des décès dus au Covid-19. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que le confinement portait ses fruits. Mais paradoxalement, Odile Pouget, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Moins de 6% de la population infectée est donc, on l'espère, immunisée. 12% dans le Grand Est et en Île-de-France. De France, les régions les plus touchées, on est très loin du pourcentage à atteindre pour que le virus arrête de circuler. D'où la nécessité, selon les chercheurs, de maintenir des mesures de protection au-delà du 11 mai pour éviter une deuxième vague. Des chercheurs qui sont aussi parvenus à mesurer l'impact des gestes barrières, du respect des distances et du confinement. Et il est très fort. Un taux de transmission du virus qui s'effondre de plus de 80% et la perspective d'un reflux du nombre quotidien des admissions en réanimation. Au moment du déconfinement, celle-ci devrait culminer à 50 par jour contre 200 actuellement. Dernier renseignement de cette étude, le risque de mourir pour un homme atteint du Covid-19 est bien supérieur à celui d'une femme, plus 45% sans que l'on sache encore pourquoi.
Merci Odile Pouget. Moins de 6% de la population infectée, il faudrait arriver à 70% pour que le virus cesse de se propager. D'où l'intérêt, disent tous les spécialistes, de maintenir les gestes de précaution auxquels nous nous sommes habitués et qu'il ne faut surtout pas abandonner. Je vous propose d'écouter ou de réécouter le témoignage de cette auditrice. Elle est infirmière libérale dans le Nord. Elle a appelé tout à l'heure au 3210 l'émission des petits matins. Elle s'appelle Aurélie et elle note un relâchement.
On a constaté depuis le discours du président que la population pense qu'on a gagné la guerre finalement. Ils se relâchent, ils sortent plus, il y a beaucoup plus de monde sur les routes. J'ai un exemple à vous donner. J'ai un patient qui m'a demandé de décaler le rendez-vous parce qu'il allait assister à l'anniversaire de son fils. Et ils étaient plus ou moins une vingtaine de personnes. Vous voyez, je pense que pour eux, bah voilà, on parle de déconfinement le 11 mai, donc tous les efforts qu'on a faits, on relâche. C'est frustrant parce qu'on a fait beaucoup de sacrifices, parce qu'on prend beaucoup de risques et on a peur d'une deuxième vague. On en parle entre nous quand on se croise et c'est très frustrant. On est fatigué.
Témoignage de cette infirmière libérale chez Julien Cellier tout à l'heure sur RTL.
Dans ces conditions, difficile d'imaginer que la vie pourra reprendre comme avant, après le 11 mai.
Et pourtant, de plus en plus de trains et de métros vont se remettre à circuler. Le port du masque pourrait être obligatoire, mais rien n'est confirmé pour le moment. Les Parisiens ont-ils peur de l'après 11 mai? Reportage de Morad Jabari.
Le wagon n'est pas vide, mais il n'est pas bien rempli non plus. Chaque voyageur a suffisamment de place pour prendre ses distances.
Là, il n'y a personne, donc ça va. Là, il n'y a pas de souci pour l'instant dans les wagons pour respirer.
Un luxe qui devrait disparaître à l'heure du déconfinement. Les places assises seront de nouveau une perle rare, plaisante Sarah. Elle redoute que les wagons se transforment en boîte à sardines.
Le 11 mai, j'aurais peur qu'il y ait trop de promiscuité, qu'on soit très proches les uns des autres, qu'on sera condensés, il y aura un effet de masse. Il y a plus une appréhension là. Là, on est obligé de travailler, on appréhende, oui.
Être collé à son voisin, plaqué contre la porte, la barre, se retrouver sous le nez, la bouche des voyageurs, faute de place.
Écoutez, vous voyez, je mets des gants, un masque, je pense que je continuerai à faire pareil.
Mais la réserve de masques de Christophe s'épuise. Il espère que le gouvernement distribuera, vendra des masques au plus grand nombre, mais il en doute.
J'ai des doutes, oui, parce que ça fait un mois et demi qu'il nous dit qu'il commande des masques. Ceux qui devraient en avoir n'en ont pas. Donc ça n'est pas acquis. Et puis comment on les aura? Est-ce qu'on nous les distribuera? Est-ce qu'il faudra aller les chercher? Est-ce que ce sera gratuit? Voilà. Je pense pas que nous on distribuera très facilement. Je dirais, il y a encore 3 semaines.
3 semaines pour peut-être s'improviser, couturier et confectionner son masque soi-même.
Un reportage de Morad Jabari.
Et je vous rappelle qu'à 8h20, nous serons avec Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Question sur la sécurité dans les transports. Question aussi dans les usines et les chantiers qui repartent progressivement. Ce matin, l'usine Toyota d'Onin, près de Valenciennes, reprend avec une partie de ses équipes et malgré l'intégration de strictes mesures sanitaires promises par la direction, certains ne sont pas rassurés. Écoutez Eric Pecker, délégué CGT.
Le sentiment des salariés de Toyota, c'est que les profits des actionnaires de Toyota passent avant notre santé. On est plus de 2 fois le porte-avions Charles de Gaulle. Sauf que nous, on n'est pas en mer, on est immergé dans la population. Et c'est prendre de gros risques, c'est prendre le risque de relancer l'épidémie dans toute la région.
Le délégué CGT de Toyota à Honin qui s'est prononcé contre la reprise du travail, il était avec Antoine de Carnes.
Et le président du site, qui était notre invité à 7h15, affirme lui que toutes les mesures de sécurité ont été prises et que 85% du personnel est volontaire dans cette affaire.
Le Grand Paris aussi relance la machine, remise en route aujourd'hui d'un premier tunnelier en Seine-et-Marne. Même chose près de Lyon, la société de BTP qui construit actuellement un centre de loisirs près du Groupama Stadium a repris ses activités sous le regard de notre correspondant Frédéric Perruche.
Sur ce vaste chantier qui jouxte le stade, une des deux immenses grues fonctionne à nouveau et la moitié des 60 ouvriers a repris le travail. Dans des conditions sanitaires très strictes, explique Manu, un des chefs de chantier, masque sur le visage.
Dès le matin, ça commence par le transport, c'est un par véhicule. Et puis après, une fois qu'on arrive sur le chantier, il faut tout de suite s'équiper avec des gants et un masque pour pouvoir accéder au site. On a des chasubes, on a des lunettes, alors les masques c'est deux par jour. On a des points d'eau avec du savon assez lourd, mais on n'a pas le choix.
Les ouvriers se tiennent à distance, étouffent un peu sous les masques, mais après plus d'un mois d'arrêt forcé, apprécient cette reprise malgré les contraintes.
Ah là, on a trouvé le temps, effectivement. Très très long même. C'est vrai que le boulot, c'est autre chose. Déjà, c'est n'est-ce que pour la tête, pour la morale, pour tout. Quoi. Même si c'est compliqué, on est quand même mieux au boulot qu'à la maison. Enfin, surtout moi. Ça me manquait, effectivement.
Sur 250 salariés, à peine une quarantaine a pu reprendre sur une poignée de chantiers, explique Norbert Fontanelle, le patron de l'entreprise du même nom.
Quand on est une entreprise, l'important c'est de travailler, nous c'est de couler du béton, rester à la maison, c'est pas forcément notre ADN. L'important c'est de pouvoir survivre, pouvoir faire rentrer un peu de chiffres. Nous, une entreprise comme nous, c'est environ 5 millions de chiffre d'affaires par mois. Et depuis le 17 mars, on a fait zéro de chiffre d'affaires.
Cette reprise est donc essentielle pour l'entreprise Fontanelle qui craint tout de même de perdre 20 à 30% de son chiffre d'affaires cette année.
Frédéric Perruche. Aux États-Unis, Donald Trump ferme le robinet de l'immigration. Il a annoncé la signature d'un décret, une suspension temporaire des arrivées, dit-il, pour protéger le travail des Américains. Depuis le début de l'épidémie, ils sont près de 22 millions à avoir perdu leur emploi. Le cours du baril américain a repris ce matin quelques couleurs en Asie pour revenir légèrement au-dessus de zéro. Il avait atteint hier le chiffre historique de moins 37 dollars en raison de la saturation du marché. C'est la première grande compagnie aérienne à faire les frais du coronavirus. Virgin Australia s'est mis volontairement en cessation de paiement. Les vols sont maintenus, mais le sort de l'entreprise est confié à des administrateurs judiciaires. Le groupe était déjà en grande difficulté avant l'épidémie.
RTL, 8h07, une absence et des spéculations.
Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen qui n'est pas apparu la semaine dernière au 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, serait au plus mal. Après une opération, les rumeurs vont bon train étant donné que ce n'est pas auprès des médias de Pyongyang que l'on obtiendra la moindre information. Pour CNN, il serait dans un état grave. La Corée du Sud, elle, minimise.
La reine d'Angleterre, elle, est en pleine forme. Elisabeth II fête aujourd'hui ses 94 ans.
The Queen, qui avait appelé ses sujets il y a deux semaines dans une rare allocution à faire preuve de résilience, a décidé de passer le cap en faisant profil bas en raison du contexte sanitaire. Les festivités habituelles sont annulées, Marie Billon.
Ce sera un anniversaire discret pour Sa Majesté, littéralement. D'habitude, 41 coups de canon sont tirés. Cette année, le silence des rues désertées de Londres ne sera pas rompu par les canonnades, explique Richard Fitzwilliams, spécialiste de la monarchie.
La reine a décidé qu'il n'y aurait pas de célébration, car c'est une période très triste pour tant de gens. Et c'est la toute première fois que son anniversaire ne sera pas célébré.
Elisabeth II a aussi indiqué que si ça ne peut pas se faire en respectant les distances de sécurité, les bâtiments officiels n'auront pas à hisser son drapeau. Précisons quand même que les festivités, les vraies, ont normalement lieu en juin pour l'anniversaire officiel de Sa Majesté. C'est là que ses sujets pavoisent par milliers, qu'a lieu un grand défilé et que la reine apparaît au balcon de Buckingham Palace. Mais cette année, cette célébration là aussi est annulée. Le prince Philippe sera donc le seul à pouvoir chanter Happy Birthday à son épouse, mais le couple devrait cependant parler au téléphone ou par vidéoconférence aux autres membres de la famille qui sont chacun confinés en leur demeure.
Voilà, un anniversaire très simple avec le prince Philippe et les Corgis.
En toute simplicité, C'était le journal de Jérôme Florin. Dans quelques instants, Michel Simès.